plu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
L'ami qui a bombardé sa maison, elle a quitté Kobané avec 5 de ses enfants. Ses deux filles aînées sont restées pour se battre.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez
et à bombarder des positions du PKK et procéder à des centaines d'arrestations. Malgré cela, chaque jour, des jeunes rejoignent les groupes armés kurdes.
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas. Les jeunes disent qu'ils n'en peuvent plus et étendent l'autonomie à d'autres endroits. Quand on parle de l'autonomie, on dit qu'elle a 9 pieds. L'économie... le social, le culturel, la santé, l'écologie, les femmes, etc. Dans ces 9 pieds, il y a aussi l'autodéfense.
Si vous vous daéchisez, nous nous kobaniserons.
Gouvernance kurde dans le sud-est de la Turquie. Entretien avec Haydar Dariçi, 22 décembre 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer les origines du mouvement d'autogouvernance ?
Alors, avant de commencer à expliquer ce qui se passe actuellement au Kurdistan de Turquie, il y a deux choses que je tiens à dire sur la transformation historique des politiques kurdes. Premièrement, le PKK, acteur central du mouvement pour la libération du peuple kurde, avait initié une guérilla contre l'État turc pendant les années 80. Il a ensuite reçu de plus en plus de soutien de la part de la population kurde. À ce moment-là, la lutte n'a pas seulement réussi à créer des zones libérées dans les montagnes autour du Kurdistan, mais elle a aussi su politiser et mobiliser les populations kurdes dans les villes. Ce mouvement définissait la guérilla dans les montagnes et la culture politique des protestations dans les villes comme un processus de rébellion. Le mouvement considérait que, tout comme les montagnes, la libération des villes était un point décisif pour atteindre la liberté. Cela veut dire que la guerre actuelle sera désormais menée en ville plutôt que dans les montagnes. Le mouvement appelle ce nouveau processus, commencé depuis près de 5 ans, le processus de construction. Le deuxième point est le fait qu'au moment de l'apparition du PKK et pendant les années qui ont suivi, le but était la création d'un État-nation socialiste kurde. Cependant, les acteurs principaux du mouvement kurde ont commencé, vers la fin des années 90, à critiquer l'État-nation ainsi que l'idée même de nation. Il s'agissait d'une critique nourrie et informée par les expériences des mouvements de résistance anticolonialiste et de l'échec des États-nations qui en ont émergé. Cette critique a mené à des changements fondamentaux au sein du mouvement kurde, renonçant à l'idée de créer un État-nation kurde, en fait. La question fut posée, est-il possible pour un mouvement de libération nationale d'aller au-delà de l'idée de nation et de l'État-nation, idée sur lesquelles le mouvement se fondait au départ, et de créer un modèle révolutionnaire qui libérerait pas seulement les Kurdes, mais aussi le reste du Moyen-Orient. Ce modèle, formulé majoritairement par Abdullah Öcalan depuis la prison, s'appelle l'autonomie démocratique. Ça fait maintenant quelques années que le mouvement kurde a commencé à vivre des expériences locales d'autonomie démocratique. Ce modèle cherche à créer des zones hors de l'État plutôt que de créer un État kurde. Je tiens à ajouter que ce furent les jeunes et les enfants kurdes qui ont posé les fondations sur lesquelles l'autonomie démocratique a pu être construite. À partir de la fin des années 90, la jeunesse a mené une politique radicale dans les rues, vivant des affrontements quasi quotidiens avec la police, en jetant des pierres et des cocktails Molotov. À travers cette politique radicale, ces rues ont été transformées en lieux politiques, et les jeunes ont réussi à rendre leur quartier et leur village inaccessibles pour la police. L'autonomie démocratique, à travers les communes établies dans les quartiers, cherche donc à transformer plusieurs domaines de la vie sociale, la loi, l'économie, la santé, l'éducation, l'autodéfense, entre autres. Pour donner quelques exemples, les acteurs politiques locaux ont créé leur propre système judiciaire pour résoudre des problèmes au sein de la communauté, sans avoir recours aux tribunaux de l'État. Ils sont actuellement en train de mettre en place des coopératives dans le cadre de la création d'une économie alternative. Les jeunes, qui sont formés et armés dans le cadre du YDGH, ont pris en main la responsabilité de l'autodéfense dans leur quartier. Les femmes sont autant actives que les hommes lors de tout ce processus et par le biais de leurs nombreuses organisations. Il existe un système de coprésidence appliqué dans toutes les villes kurdes, c'est-à-dire que du bas vers le haut et à tous les niveaux, il y a un homme et une femme qui partagent le rôle de « responsable », entre guillemets. En ce qui concerne l'égalité des genres, plutôt que d'essayer par l'éducation de convaincre des hommes de partager le pouvoir avec les femmes, le mouvement valorise les femmes dans son ensemble. Celles-ci ont les mêmes droits et responsabilités et sont libres de créer leur propre organisation dans lesquelles les hommes n'ont pas le droit d'intervenir.
Et selon ce que tu as vu et vécu, c'est quoi le contexte idéologique du mouvement d'autogouvernance ? Quels sont les livres qui sont lus et les idées qui circulent ?
Il y a une variété de livres qu'on lit et qu'on fait circuler dans les prisons, les campements de guérilla et dans les villes. Il s'agit des classiques marxistes, post-marxistes aussi, anarchistes, les études post-coloniales, les théories féministes, les théories écologistes, ainsi que les œuvres de Öcalan, rédigées majoritairement en prison. Mais je dirais que, plus précisément, ce sont « Empire et multitude » de Negri et Hart, ainsi que les livres de Murray Bookchin sur l'écologie et l'autonomie, qu'on pourrait considérer comme étant, entre autres, les textes constitutifs de cette nouvelle phase du mouvement.
Ok, et dans quelle mesure tu as pu observer le processus que tu décris ?
J'ai habité à Cizre pendant un an et demi, entre 2013 et 2015, où j'ai mené des recherches ethnographiques sur les politiques de la jeunesse kurde. Après avoir terminé mes études, j'y suis retourné pour rendre visite aux amis.
Quels sont les impacts de la création de l'autogouvernance locale sur les structures politiques du HDP ? Quelle est l'interaction entre ce mouvement et le mouvement d'autonomie au Rojava, l'autre côté de la frontière syrienne ?
Le mouvement d'autonomie au Rojava s'inspire des idéologies formulées par Abdullah Öcalan. Il a vécu longtemps au Rojava avant son arrestation. C'est pour ça qu'il a une grande influence sur la population là-bas. Malgré le fait que les PYD et que le PKK soient deux organisations différentes, ils partagent la même idéologie. On sait que beaucoup de combattants du PKK sont partis rejoindre les combats au Rojava. Lorsque je faisais mes recherches à Cizre, il y a eu beaucoup de jeunes de cette ville qui ont rejoint les YPG. Actuellement, beaucoup des gens qui se sont battus au Rojava viennent rejoindre la résistance contre l'État turc à Cizre ou dans d'autres villes. Le processus de construction de l'autonomie au Rojava a aidé à lancer ce même mouvement au Kurdistan en Turquie. Les acteurs politiques au Kurdistan turc passaient régulièrement la frontière pour aller au Rojava et ils y ont appris énormément de la situation et de leur expérience là-bas. Tout ça pour dire que le Rojava et le Kurdistan turc restent fortement liés. Le HDP a aussi été fondé dans le cadre de cette nouvelle phase du mouvement, mais il était censé s'organiser surtout, mais pas exclusivement, dans l'ouest de la Turquie. Agissant ensemble avec les gauchistes, les anarchistes, féministes et beaucoup d'autres groupes d'opposition, le HDP cherchait à transposer la lutte au Kurdistan dans la partie ouest de la Turquie. Bon, je dirais que même si le HDP a eu des bons résultats aux élections, il n'a pas réussi à porter une politique révolutionnaire. Il y a beaucoup de raisons en fait pour expliquer cela. Le HDP transposait ses politiques révolutionnaires sur le terrain problématique du multiculturalisme et il n'a pas réussi à aller au-delà des discours libéraux concernant la paix et les droits de l'homme. Cette perspective ne leur a pas réussi en ce qui concerne la question de la violence. Je veux dire que En fait, lorsque la jeunesse au Kurdistan était en train de monter une lutte armée radicale contre l'État, le HDP faisait semblant qu'une telle résistance n'existait pas et qu'il ne s'agissait que de violations des droits de l'homme de la part de l'État turc, etc. Le HDP faisait face à un dilemme, faire de la politique dans deux mondes radicalement opposés. Ça fait déjà très longtemps que la population au Kurdistan est politisée, alors que dans les régions turques, les groupes d'opposition se sont faits majoritairement marginalisés, à l'exception du mouvement Gezi qu'on pourrait considérer comme un point de rupture. De plus, le Kurdistan est un pays colonisé, où la violence étatique, tout comme la résistance, est à vif. Mais au lieu de vraiment se confronter à ce dilemme et ensuite trouver des manières de s'organiser dans l'ouest de la Turquie, le HDP choisissait le chemin le plus facile, en embrassant le discours du multiculturalisme.
La société kurde est largement hétérogène. À côté des sympathisants de l'autonomie kurde et du socialisme démocratique, il existe un nombre non négligeable de Kurdes conservateurs et islamistes, dont certains militent fortement contre tout ce qui ressemble au PKK. Il est possible qu'il y ait un certain nombre d'hommes d'affaires kurdes ou de chefs de tribus qui ne seront pas forcément d'accord avec certaines pratiques de l'autogouvernance locale. Certains de ces éléments ont voté AKP, le parti de Erdogan, lors des dernières élections. Certaines régions touchées par le mouvement sont d'ailleurs assez variées, ethniquement parlant, comprenant par exemple des populations turques et arabes. Pour toi, comment ce mouvement navigue-t-il entre ces potentielles lignes de fracture ?
Le mouvement kurde est devenu, avec le temps, une puissance hégémonique au Kurdistan et dans les quartiers populaires kurdes dans l'ouest de la Turquie. Alors il a réussi à politiser et contenir à la fois des personnes croyantes et non-croyantes. Il est devenu le seul mouvement en Turquie capable d'aller au-delà des lignes binaires. En ouvrant de nombreux lieux politiques et sociaux pour des groupes variés, le mouvement a su attirer à la fois les classes populaires et les classes moyennes. Il a aussi reçu du soutien des tribus kurdes partout au Kurdistan. Même des familles de paramilitaires qui se sont battues contre le PKK pendant les années 90 ont commencé à le soutenir. L'enjeu en ce moment est le fait que la lutte kurde est en train de changer de forme et que certains ont du mal à s'y adapter. Par exemple, la marge de manœuvre des actions politiques civiles est beaucoup plus restreinte face à l'intensification de la violence d'État vis-à-vis du processus d'autonomie. Les classes moyennes des grandes villes, comme Diyarbakır et Van, actives auparavant dans les politiques civiles et les ONG, ont l'air d'hésiter à participer au mouvement politique actuel, alors que les quartiers pauvres de ces mêmes villes se sont mobilisés de plus en plus. Dans certaines villes où le mouvement kurde était fort mais n'était pas hégémonique, les gens sont restés largement silencieux dans la mesure où ils ne pouvaient pas déclarer leur autonomie et du coup n'ont pas soutenu la résistance dans d'autres villes. Ce sont les villes où le mouvement kurde est historiquement hégémonique qui endossent le nouveau processus du mouvement. Je tiens aussi à ajouter que ce furent les jeunes qui ont été les acteurs principaux du mouvement kurde. Ce sont ces jeunes gens qui définissent le rôle de la politique au sein de notre nouveau processus. Et ce sont encore eux qui sont les plus efficaces quand il s'agit de résister contre l'État. Pour finir, nous sommes au cœur d'un processus où la lutte kurde est à la fois en train de monter en puissance dans certains endroits et de se faire marginaliser dans d'autres. Mais je crois qu'à long terme, ces endroits se radicaliseront aussi, car l'autonomie est en train de se construire de manière de plus en plus forte dans d'autres villes.
Et quelles sont les perspectives concernant la propagation du mouvement de l'autogouvernance dans les parties de la Turquie qui ne sont pas traditionnellement kurdes ? Est-ce qu'une telle expansion est envisageable si l'on tient compte de la hausse du nationalisme turc, donc anti-kurde, et le rôle que ça a joué dans les dernières victoires électorales de l'AKP ? Vu l'intensification de la militarisation de la région, est-ce qu'il reste la moindre possibilité de maintenir et de garder en place le mouvement d'autogouvernance ? Enfin bon, quelles sont les perspectives du mouvement, quoi ?
Ce mouvement d'autonomie démocratique pose un défi en fait immense pour l'État turc, étant donné qu'il s'agit d'une zone dans laquelle l'État réclame son autorité, alors que sur place, il y a une vie anticapitaliste qui se met en place. De plus, à long terme, ce mouvement peut potentiellement se propager dans d'autres régions de la Turquie. L'année dernière, l'État turc a essayé de rentrer dans les quartiers pour arrêter des gens dans une tentative de combattre cette propagation potentielle du mouvement. Les jeunes y sont alors mis à creuser des tranchées profondes aux entrées des quartiers, et à tenir leurs barricades, les armes à la main. Les forces de sécurité turques n'ont pas réussi à dégager ces barricades, ni les jeunes qui les tenaient. Suite aux élections générales du mois de juin, le gouvernement a déclaré la fin des négociations et a lancé des attaques encore plus brutales contre les villes kurdes. Dans beaucoup de villes au Kurdistan, des couvre-feux ont été déclarés, parfois durant plusieurs semaines. Les snipers tiraient sur toutes celles et ceux qui n'obéissaient pas. Postés tout autour, des chars militaires bombardaient les villes. N'étant pas capable de restaurer son autorité, l'État turc a alors tenté de rendre les villes kurdes inhabitables. Les blessés n'avaient pas le droit d'être emmenés à l'hôpital, les morts n'avaient pas le droit de se faire enterrer. Les gens passaient leur nuit à mettre de la glace sur les cadavres de leurs proches pour éviter qu'ils pourrissent. Mais malgré tout cela, l'État ne pouvait pas entrer dans les quartiers face aux jeunes qui creusaient des tranchées de plus en plus profondes et qui renforçaient leur arsenal. Pour se protéger des balles de snipers, ils accrochaient des énormes draps au-dessus des rues pour bloquer la vue. C'est une stratégie qu'ils avaient appris au Rojava. Ils cassaient aussi des murs entre les maisons et passaient d'une maison à l'autre, partageant de la nourriture et aidant les blessés, sans mettre un pied dehors. On pourrait dire qu'ils sont en train de refaire l'architecture des villes pour les rendre plus appropriées à l'autodéfense. Plusieurs villes kurdes, y compris Cizre, Silopi et Nusaybin, sont actuellement, en décembre 2015, sous couvre-feu. Ces villes sont entourées de chars et de snipers. Le premier ministre, Davutoglu, qui a changé depuis, a déclaré récemment en disant qu'ils allaient purifier ces villes, maison par maison. L'État essaye de détruire l'autonomie qui se met en place au Kurdistan au prix de destruction de villes entières et de meurtres de beaucoup de gens. Et les populations du Kurdistan, notamment des jeunes, sont en train de résister contre la mort. L'autonomie au Kurdistan, vu l'extrême violence étatique, est-elle viable ? Moi, je crois que ouais. Je crois que oui, parce que l'État ne peut pas gagner une telle guerre, quel que soit le niveau de brutalité. Au début des années 90, il n'y avait que les militants du PKK qui étaient impliqués dans des conflits armés dans les villes. Mais maintenant, la différence entre guérilla et citoyens devient de plus en plus floue. Les civils sont armés et se défendent. Cette lutte ne cherche pas à transformer uniquement la Turquie, mais également l'ensemble du Moyen-Orient, c'est-à-dire que les tentatives d'autonomie démocratique ainsi que l'autodéfense en cours actuellement au Kurdistan turc, et de manière plus forte au Kurdistan syrien, au Rojava, pourraient servir comme modèle pour toute la région et peut-être même au-delà. Mais la question qui reste est la suivante. Comment ce modèle peut-il se propager ailleurs ? Comment ? Comme je l'ai déjà dit, le HDP n'a toujours pas réussi à appliquer ses politiques dans les régions non kurdes de l'ouest de la Turquie. En Syrie, le mouvement se limite au Rojava. Dans le canton de Cizre, au Rojava, il y a plusieurs ethnies et groupes religieux qui ont participé à la mise en place de l'autonomie en créant leur propre institution. Cela est une preuve que les politiques de ce mouvement ne parlent pas qu'aux Kurdes. Bon, en ce qui concerne la Turquie ainsi que le reste du Moyen-Orient, je ne saurais pas dire à quel point l'autonomie démocratique pourrait servir de modèle à l'ensemble de la région. Autour des YHDH, HDGH, les groupes d'autodéfense des quartiers au Kurdistan. Nous rencontrons Ahmet le 10 décembre lors d'une manifestation en solidarité avec les habitants et les camarades assiégés dans la vieille ville de Sur à Ahmed Diyarbakir. Il y a environ 500-600 personnes présentes et qui avancent vers les flics barrant la route, qui chantent et lancent des slogans. Là, au milieu de la foule, un jeune garçon d'à peine 14 ans nous intrigue. Sur sa main, entre le pouce et l'index, trois points tatoués qui nous rappellent immédiatement les trois points du mort aux vaches de par chez nous. Comme il est intimidé par notre curiosité, ce sont les jeunes hommes à côté de lui qui nous répondent. Oui, c'est bien un tatouage anti-flic. Un point pour un « j'ai rien vu », un autre pour « j'ai rien entendu » et le dernier pour « j'ai rien à dire ». Face à la police, pas de balance. La discussion est lancée avec ce petit groupe de manifestants, c'est avec Ahmed, 25 ans, qu'elle durera le plus longtemps. Il nous dit que sa sœur, engagée dans la guérilla depuis longtemps, est certainement de l'autre côté du barrage de la police, de l'autre côté de la muraille, en train de se battre. Il n'a pas de réelles nouvelles, mais a cru comprendre qu'elle se trouvait dans le coin d'Diyarbakir. Alors il vient la soutenir à l'extérieur de la vieille ville assiégée. La discussion est tout de suite prenante et nous lui proposons de faire, au cœur de la manif, un petit entretien autour des YDGH, les groupes d'autodéfense armée, des quartiers composés des jeunes qui y habitent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le mouvement YDGH ? Est-ce une sorte de mouvement d'autodéfense des quartiers ?
Les YDGH, c'est un mouvement qui est né dans les régions kurdes, pour protéger la culture et le peuple kurde. En ce moment, on peut les voir agir à Diyarbakir et dans tout le Kurdistan pour défendre les valeurs d'émancipation sociale du peuple.
Ce mouvement, il est lié au PKK ?
Non, c'est pas une branche du PKK, mais vu que c'est un mouvement de la guérilla, pour ce qui est de l'aspect technique des choses, la guérilla du PKK aide à former les YDGH au combat. Les YDGH se forment dans les montagnes et viennent ensuite défendre le peuple dans les zones urbaines. En fait, on peut donner un exemple pour faire une comparaison. C'est un peu comme dans les années 90, quand le PKK avait été aidé dans sa formation par le mouvement Tico. Ils n'ont pas les mêmes idéologies, mais se retrouvent sur plusieurs aspects. D'avoir le même ennemi, de vouloir défendre leur peuple et de vouloir la libération des peuples. Les PKK-liés restent les guérillas des montagnes et les YDGH sont les guérillas urbaines. Contre toutes les oppressions qu'on subit, les gardes à vue, les perquisitions à répétition, les enfermements et bien d'autres injustices, ces guérillas sont là pour l'autodéfense. Le gouvernement dit qu'il est là pour protéger le peuple, qu'il est là pour faire valoir les droits de chacun, mais rien ne va dans ce sens. C'est de là que vient ce mouvement. Imaginons un chat. Si on l'attaque, bah, il sort ses griffes. C'est instinctif, c'est de la défense. Et d'une façon normale et naturelle, contre toutes ces attaques de l'État, il a été vital d'avoir une protection du peuple dans les quartiers.
Mais concrètement, comment ça s'organise ? C'est un groupe de potes qui se retrouvent et qui décident d'aller se former à la montagne ? Il y a différents groupes qui se coordonnent comme ça ?
Ces organisations se sont créées dans les quartiers. Ces groupes se sont formés d'abord pour lutter contre la prostitution et la drogue dans les quartiers. Les jeunes disent « Nous, on ne veut pas de drogue chez nous », en prenant en considération les ravages que cela provoque sur les gens. Ils disent qu'ils ne veulent pas être exploités, ni eux-mêmes exploités. Ils veulent du coup protéger le quartier de tout ce qui pourrait les fragiliser dans leur émancipation. De là naît le mouvement des YDGH. Et il faut pas croire que ces jeunes sont des jeunes voyous comme le dit l'État, ou bien qui se baladent les bras ballants sans rien comprendre à ce qui les entoure. C'est des jeunes qui sortent de différentes organisations. Ils ont étudié l'histoire, leur histoire, ils connaissent leur culture, et de cette façon, ils décident et réfléchissent à comment défendre tout cela. En réalité, ils travaillent et s'activent à faciliter l'émancipation des gens dans nos quartiers. Bon, mais ces derniers mois, ils sont malheureusement contraints de ne se pencher que sur la question de l'autodéfense. Et si les manifestations se font de plus en plus grandes au Kurdistan ces dernières années, c'est aussi dû à l'histoire. Le gouvernement turc scandait après les massacres perpétrés dans les années 80-90.
Nous avons bien enterré le peuple turc et avec tout le ciment que nous avons versé sur leurs tombes, ils ne sont pas prêts de se relever.
Mais notre leader, Abdullah Öcalan, nous a fait relever la tête. Et les YDGH ne s'arrêteront plus dans leur lutte. Il y a Apo qui motive et active les actions des uns et des autres, mais pas seulement. Il y a aussi la présence du gouvernement sur nos terres qui devient de plus en plus absurde. Aucune solution n'est trouvée pour les difficultés que rencontre le peuple dans les quartiers. Alors les gens veulent s'autonomiser et se débrouiller par eux-mêmes. Le gouvernement ici attaque et massacre son peuple, d'une manière de plus en plus violente et terrifiante. Du coup, oui, ça s'organise, oui, ça se bat, oui, on essaye de se défendre comme on peut. Mais tous les jeunes de quartier ne sont pas des YDGH. Ceux qui jettent les pierres, ce sont des gamins qui subissent aussi la répression, les gardes à vue et la terreur de l'État. Ce sont des jeunes qui se défendent aussi, mais qui ne font pas partie des YDGH. Dans les quartiers, il y a des initiatives de groupes de jeunes. Ils agissent de la manière qu'ils trouvent la plus juste.
L'Union européenne finance Daesh. 6 milliards d'euros donnés à la Turquie.
Bon, prendre ce titre comme vérité pourrait sembler un peu hâtif. Et pourtant, c'est à peu de choses près ce que l'Europe vient de faire. Le président dictateur turc Erdogan a beau être prêt à toutes les horreurs pour asseoir définitivement son pouvoir, il n'en est pas moins malin. Il a bien manœuvré l'été dernier. En ouvrant les vannes des Syriens et Irakiens réfugiés en Turquie vers l'Europe, il a mis une pression phénoménale sur cette dernière. L'Union européenne, prise de panique, a cédé à toutes les exigences de l'État turc. Non seulement elle a décidé de se murer dans un silence assourdissant quant aux pratiques fascistes du régime turc, aux massacres qu'il commet et au climat de terreur qu'il instaure au Kurdistan, mais l'Europe a également pris la décision de donner 6 milliards d'euros à la Turquie pour externaliser sa politique migratoire. C'est-à-dire que l'État turc garde les réfugiés à l'intérieur de son territoire. Il serait naïf de croire que ces 6 milliards d'euros seront utilisés à ces fins. Et de fait, en Turquie et au Kurdistan, personne n'y croit. Tout le monde sait que la plus grande partie du magot ira directement dans les poches du dictateur pour armer toujours plus ses flics et ses militaires dans les guerres aux opposants et aux mouvements kurdes. Chacun sait aussi que les institutions répressives, notamment, sont de plus en plus pénétrées par Daesh. Ces 6 milliards ne sont qu'un chèque en blanc donné au régime fasciste et à l'esprit de Daesh en Turquie. Que penses-tu des 6 milliards d'euros qui ont été donnés par l'Union européenne à la Turquie ?
En gros, l'Europe dit que les réfugiés restent en Turquie, qu'ils ne viennent pas en Europe, qu'ils ne viennent pas nous faire chier en Europe. Nous avons beau avoir détruit leur vie et ainsi les avoir obligés à migrer, qu'ils ne viennent pas en Europe, qu'ils restent en Turquie. Et à Erdogan, on vous donne l'argent pour construire des camps et gardez-les. En Turquie, les réfugiés n'ont pas de statut juridique et sans même parler de droit, ils sont dans un vide juridique. Cette absence de statut les force à vivre une vie totalement précaire. Alors que dans leur pays d'origine, ils avaient un statut, une occupation, une vie. Mais en Turquie, ils n'ont absolument aucun droit, aucune garantie. Tout le monde peut les bousculer, se comporter mal avec eux, les considérer comme inférieurs. Un jour, par exemple, je sortais de la bibliothèque et une femme faisait la manche. Un homme, avec une carriole, l'a quasiment écrasée car il la considérait avec mépris comme une moins que rien. Cet homme montre le type de considération dont fait preuve une grande partie de la population à leur égard. En Turquie, il n'y a aucune loi qui reconnaît un quelconque statut pour les migrants. Ils ont droit aux soins de santé gratuits, mais quand ils vont dans les hôpitaux, ils sont utilisés comme cobayes pour des tests médicamenteux. Ils sont bien sûr utilisés aussi comme force de travail peu chère. Ils sont tous exploités comme jamais. Et tout le monde les exploite. Aussi bien les AKPistes que les personnes dites de gauche. Cet argent, donné par l'Union européenne, n'est pas utilisé pour les migrants. Quand on regarde les dépenses du gouvernement ces derniers temps, le plus gros poste de dépense, c'est la défense. Et quand on voit la guerre en cours, on voit très bien dans quel secteur on s'en fait les dépenses, les armes et les militaires, ou plutôt contre qui ces dépenses sont utilisées. Chaque centime donné par l'Union européenne à l'État turc retombe sur les Kurdes sous forme de bombes et de balles. Peut-être qu'un pour cent est utilisé pour les réfugiés.
Dans quelle mesure Daesh pénètre les institutions en Turquie ?
Daesh trouve son assise au sud du Kurdistan, là où l'État turc est présent. C'est là qu'il est soutenu. Est-ce qu'on a déjà entendu des gens qui se soient engagés dans l'État islamique, par exemple à Sirnak, ou à Cizre ou à Nusaybin ? Moi non. À Diyarbakir ? Par exemple, ce sont aux endroits où nous avons été faibles sur le plan de l'organisation que des personnes se sont engagées auprès de Daesh. Là où le PKK n'est pas vraiment présent, des personnes se radicalisent, comme à Adıyaman par exemple. Là où le gouvernement turc est fort, Daesh trouve son socle. Daesh et l'État ne peuvent pas progresser au Kurdistan car il y a une présence idéologique très forte. Quels sont les endroits où la force obscure de Daesh gagne du terrain ? Là où il n'y a pas de mouvement idéologique, là où l'idéologie est faible. Par exemple, comme dans une ville comme Kobané, Daesh a été frappé par la résistance du mouvement kurde. Cette bataille n'est pas seulement le fruit de la force de la guérilla, mais bel et bien d'une volonté claire du mouvement de libérer la région. Ça venait de cette force idéologique. Ils ont combattu avec leurs armes et leur espoir. Et partout où des combattants sont tombés comme martyrs, et que leur flambeau a été repris par d'autres, la résistance du mouvement n'en a été que plus forte. S'il n'y avait pas eu des manifestations et des actions menées dans toute la Turquie et en Europe, Kobané serait tombée aux mains de Daesh. Et ces actions se sont faites car les personnes sont politisées, organisées, et se sentent concernées. S'il n'y avait pas eu cette unité, personne n'aurait entendu la voix de Kobané. Par ricochet, donc, toute l'aide apportée à la Turquie va en fait à Daesh. Pourquoi on pense ça ? Parce que Daesh nourrit le capital des bourgeoisies turques et arabes, et que c'est leur force armée. Là où Daesh entre, le capital des bourgeoisies turques et arabes suit. Vous savez tous que les entreprises syriennes d'Alep ont été démantelées et reconstruites à Gaziantep. Il faut s'imaginer que du pétrole arrive de Syrie et d'Irak, et en retour, des vivres et des armes sont envoyés. La situation, c'est celle-là. Et personne ne peut dire dans cette histoire « moi j'ai les mains propres ». La Turquie, Daesh, le régime d'Al-Assad, l'Irak, l'Angleterre, l'Amérique, la France et tous les adeptes du pétrole sont dans le coup. Garip ben bir göçmen alayım seni alayım da gurbet ele sarayım seni.
Dans un monde où de nombreuses femmes sont victimes de la violence masculine, il n'y a pas d'autre choix que la lutte. la lutte des YPS djinns est une lutte internationaliste contre le système patriarcal. Dans la province de Mardin, au Kurdistan turc, la ville de Nusaybin a une longue histoire de résistance. Aujourd'hui, alors que l'État turc envoie des véhicules blindés dans chaque coin de rue, ce sont les enfants et les femmes de la ville qui mènent la construction des barricades. Avec le processus de paix qui a commencé en Turquie en 2013, l'État turc pensait qu'il pouvait simplement nous faire perdre notre temps, alors même que le peuple kurde faisait sa part du travail. Pourtant, ici, ce n'est pas le peuple kurde qui est en train de perdre, mais l'État. Si l'État n'est pas parvenu à entrer dans les quartiers insurgés de villes comme Nusaybin, même après 2 mois de couvre-feu brutal, cela signifie bien qu'il a déjà perdu. L'État est maintenant lancé dans une guerre totale, tirant même sur les enfants. Personne ne doit s'attendre à ce que nous gardions le silence. Contre ceux qui tuent nos enfants et nos mères, bien sûr que notre lutte doit être une lutte armée. La jeunesse des YPS n'a pas d'autre choix que de prendre les armes. Mais au-delà du conflit armé, leur lutte est politique et culturelle. Chez les Kurdes, les organisations féminines autonomes ont une grande importance. Ce phénomène a commencé dans les régions avec les organisations féminines du PKK. Dans le socialisme tel qu'il a existé, on avait d'abord la lutte du peuple et après la lutte des femmes. Mais ça marche pas comme ça. Nous avons appris de cette expérience qu'une solution qui reporte à plus tard la lutte des femmes ne résout pas le problème. Le combat du peuple et le combat des femmes doivent avoir lieu en même temps. Au Rojava, la révolution est devenue une révolution des femmes avec la création de la force armée YPJ. Du coup, dans le bas-cours, nous ne pouvions pas en rester simplement au YPS. Nous devions déclarer une organisation autonome de femmes, donc les YPS djinn, en tant que femmes lançant le combat, le long combat contre le système patriarcal qui a déclenché ces guerres. Sinon, la révolution serait inadéquate. Comme dit notre chef, Abdullah Ocalan, rien n'est résolu tant qu'on ne résout pas le problème à la racine. Dans un monde où chaque année des milliers de femmes sont tuées par la violence masculine, des organisations armées féminines sont la seule option possible. En tant que femmes kurdes, nous avons déclaré que 2016 sera l'année de la lutte pour l'émancipation des femmes, que chaque femme dans le monde choisisse son camp. Les YPS djinns ont un message pour toutes les femmes. Nous ne nous battons pas juste pour une ethnie. Avec notre combat dirigé par des femmes contre les attaques du système patriarcal, nous envoyons le message. On est là. Notre combat est internationaliste. Que toutes les femmes dans le monde prennent leur place dans ce combat.
Ediliyor, sürgün ediliyorsa, köyünde, toprağında, her şeyinde koparılıyorsa, bu yanlıştır denildiği zaman bir terörist mi oluyor peki? Yüzlerce insan yok ediliyor. Yani faali meçhul cinayetler işleniyor. Bu cinayetlerin önünü almak için neden sen benim insanlarımı öldürüyorsun dediğimiz zaman, eğer başka bir yol önümüzde bırakılmadığı zaman, silahla kendimizi ve bu halkı savunduğumuz zaman terörist mi oluyoruz? Şimdi ben halkım vardır, ben bu halkı bir insanıyım diye bunun için mücadele ediyorsam, ben bunda pişman değilim ki. Bir inkar varsa yıllardan beri birçok devlet bizi inkar etti. Eğer pişman olması gereken varsa bizi inkar edenler pişman olmalı.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes bien. Vous venez d'écouter Lu et Approuvé sur Canal Sud. Et bah voilà, on est content de faire cette lecture, vraiment. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce bouquin. Qui s'appelle Seril Dan, le soulèvement au Kurdistan.
Seril Dan, ça veut dire rébellion.
Yes. Oui, oui, c'est ça. Et paroles de celles et ceux qui luttent pour l'autonomie, c'est le sous-titre. Il n'y a pas vraiment d'auteur, malgré pas le collectif Nevarneyok. Difficile, on n'a pas forcément toutes les prononciations kurdes. On est navré de ça.
On a dû faire un sacré carnage, la prononciation des villes.
On a dû faire un carnage, ouais. Et du coup, en fait, c'est une nouvelle maison d'édition dont on peut parler deux secondes, vite fait, qui s'appelle Niat Édition, qui est chouette, qui est, que vous pouvez trouver dans les bonnes librairies.
C'est des petits bouquins qui ont été faits aussi pour rendre accessibles des textes pour pas cher. Du coup, c'est des bouquins qui coûtent 6 balles en librairie et moins cher pour les prix copains-copines dans les événements ou à droite à gauche.
Ouais. À noter, il y a deux autres bouquins qui sont parus. J'ai pas les titres.
Quatrième de couverture, deuxième
rabat. Deuxième rabat. Voilà, c'est ça. Non, si, en plus, c'est marqué en plus dans le bouquin. Je peux chercher peut-être pendant que tu combles.
Il y a eu Mathieu Pérez, Contre l'État islamique et contre la guerre. Yes. Et un autre paru, État d'urgence et business de la sécurité, de Mathieu Rigouste.
Voilà. Bon, comme ça, c'est toujours bien d'en parler.
Même format, même prix.
Ouais. Du coup, on vous a lu des extraits de ce bouquin-là. Et puis, vous avez pu entendre des extraits d'un film aussi. Est-ce que tu as les références de tête?
Ouais, c'est un documentaire qui s'appelle Les femmes du Mont Ararat. Du coup, sur les femmes qui sont dans la guérilla au Kurdistan, côté turc, je crois. Voilà, du coup, il y a ce film-là. On va mettre sur le blog en lien les films, les collectifs et tout ça. Pour retrouver plus d'infos, vous pouvez aller sur le blog du collectif Nevarneyok sur nos blogs. Et il y a aussi le journal mensuel Meraba Elvano qui est en lien sur ce site-là ou sur le site de Kédistan.
Qui est un super format papier qui vaut vraiment le coup d'être lu. Et même, il existe en format numérique aussi, je crois.
Et pour avoir des actualités plus actuelles que, du coup, ce bouquin-là qu'on a lu, il est paru en juillet, ou même en août, là, je crois, 2016. Mais c'est des entretiens qui datent, là, pour la plupart, de décembre 2015.
C'est pour ça qu'il y a des petites corrections dans les marges aussi.
Plus d'actualité déjà, quoi. Ouais. Donc, voilà, à suivre.
Ça bouge beaucoup là-bas. En tout cas, on souhaite force et courage à tous ceux qui luttent pour leur autonomie. C'est vraiment un grand souffle d'espoir aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et voilà.
Vivement qu'on s'y mette.
Allez, du coup, on se retrouve sur le blog, machin.
Non, plutôt sur le site de Canal.
Sur le site de Canal,
va
exact.
On va éradiquer ce blog, en fait, puisqu'il en manque trop des émissions.
Ouais, on finit les blogs, marre, quoi. Site de Canal Sud, www.canalsud.net, vous tapez lui approuvé. Et même sur Google directement ou sur d'autres moteurs de recherche, vous pouvez trouver assez facilement en tapant lui approuvé radio, je sais pas quoi.
Yes.
Voilà.
Et bien, à la prochaine.
Et ben ouais, en espérant vous retrouver de temps en temps. Ciao, bonne soirée à vous, bonne nuit.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.